Programme de l'Université de Bordeaux 3. Cours d'histoire de Mademoiselle Herpin. Les idées politiques du général de Gaulle en 1946.
Je vais traiter aujourd'hui des idées politiques du général de Gaulle en 1946. On a beaucoup écrit à propos des idées politiques du général de Gaulle, et l'on écrira encore. Tant une personnalité de la dimension qui fut la sienne passionne l'opinion publique et internationale, lui conférant par là des partisans qui croient trouver en lui l'incarnation de leur idéal, ou des adversaires qui l'accablent de tous les maux qu'il réprouve. Notre propos n'est pas de démontrer aujourd'hui le bien fondé de leur parti pris, mais d'étudier en tant qu'historien les idées que le général exprima en maintes occasions au cours de l'année 1946, où se forgeaient les institutions d'une France qui aspirait avant tout à un renouveau dans l'unité nationale recouvrée. Il s'agit donc, par-delà les controverses, d'analyser les courants que la France rejetait et ce à quoi le général de Gaulle l'a convié. Certains ont écrit « La résistance a largement recruté à droite, a commencé par son premier inspirateur, s'il est vrai que ses origines et ses convictions rangeaient plutôt à droite, le futur général de Gaulle. » C'est René Raymond, dans « La droite en France », page 246. D'autres font servir à leur polémique les pages où le général de Gaulle écrivait en 1927 dans le fil de l'épée « Face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. Son mouvement est d'imposer à l'action sa marque, de la prendre à son compte, d'en faire son affaire. Et loin de s'abriter sous la hiérarchie, de se cacher dans les textes, de se couvrir des comptes rendus, le voilà qui se dresse, se campe et fait front. C'est du caractère que procède l'élément suprême, la part créatrice, le point divin, à savoir le fait d'entreprendre. Mais les événements avaient précipité la France dans le chaos et fait d'un simple militaire le chef de la France libre qui, à Londres, le 1er avril 1942, se définissait comme révolutionnaire et à qui Michel Debray, dans « Une certaine idée de la France », reconnaît le sens du réalisme. Je cite « À travers les réflexions et même les épreuves, la pensée du général a été dominée par un très grand réalisme. Il a accepté les changements que l'histoire imposait. » Or, en 1946, où en est la France? C'est ce que je vais aborder dans un premier point. Le gouvernement provisoire de la République qui s'est installé à Paris à la Libération et a accordé au général de Gaulle la présidence du gouvernement a, en vertu de l'ordonnance du 21 avril 1944, prise à Alger, convoqué une assemblée constituante pour doter la France et l'Union française d'institutions nouvelles. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur les projets de réforme des institutions, celles de Blum, celles de Tardieu, sur le discrédit porté à la Troisième République dans l'entre-deux-guerres, thème exposé dans une précédente émission par mon collègue M. Agostino. Il y eut ensuite l'intermède de l'État français, incarné par le maréchal Pétain, où, en réalité, plusieurs courants opposés s'affrontèrent et furent reportés sur le chef de l'État et l'extrême droite les responsabilités d'un régime compromis avec l'ennemi. En 1946, ce sont les forces de la résistance, diverses mais unanimes quant à une régénération de la France, qui prétendent faire triompher leurs principes institutionnels. Le général de Gaulle se heurte aux partis. Communistes et socialistes désirent une constituante composée d'une assemblée unique qui élaborerait les lois constitutionnelles, mais exercerait aussi un pouvoir législatif dont procéderait le gouvernement. L'élection de l'Assemblée s'effectuerait au scrutin proportionnel sur le plan national. Les radicaux envisagent alors un retour à la Troisième République, interrompue et suspendue par Vichy, mais juridiquement légitime, et que le général de Gaulle lui-même a incarné face à Vichy. Son réalisme lui commande de réformer les institutions créées en 1875 en accordant à l'exécutif un pouvoir réel, et ce, par une séparation stricte des pouvoirs, qui ne subordonnerait pas le gouvernement à la Chambre, soit par la nomination, soit par la responsabilité ministérielle. C'est d'ailleurs ce qu'il reproche au parti de gauche, soucieux de faire de la constituante l'organe unique du gouvernement. De même préfère-t-il le scrutin départemental à la proportionnelle dans le cadre national, qui élargit l'éventail de représentation, mais rend improbable la constitution d'une majorité cohérente. Les élections à la première assemblée se sont faites à la proportionnelle dans le cadre départemental, résultat d'un compromis qui laisse plusieurs possibilités de majorité. Le référendum du 21 octobre 1945 a approuvé les options du général, puisque aux deux questions, le oui a largement été majoritaire, tandis que les élections à la première assemblée constituante assuraient une majorité de gauche, c'est-à-dire 302 sièges sur 586. Le Parti socialiste choisit le tripartisme et le général devient chef du gouvernement. Or, le Parti communiste, qui a obtenu le plus d'élus, soit 152, réclame les postes ministériels clés, intérieur, guerre, affaires étrangères, ce que refuse de Gaulle. Le gouvernement est formé avec les trois partis, mais les difficultés reprennent à propos des travaux constitutionnels. L'Assemblée refuse au gouvernement le droit d'examiner les travaux de la Commission de la Constitution. Par contre, elle entend contrôler les actes du gouvernement. Dans ces conditions, le général de Gaulle se retire, refusant la domination des partis, ceci le 20 janvier 1946. Désormais, il dénonce les imperfections des projets constitutionnels et, dans ses discours, Bayeux, 16 juin 1946, Épinal, 29 septembre de la même année, pour ne citer que les principaux, il tente d'infléchir l'opinion publique soumise au référendum de ratification des projets constitutionnels. Car le projet de la gauche, assemblée unique, source de tous les pouvoirs, puisque l'exécutif, c'est-à-dire président de la République et président du Conseil, sont élus par elle et responsables devant elle, n'a qu'un pouvoir de dissolution limité. Ce projet soumis à référendum le 5 mai 1946 est rejeté par 53% des voix. La nouvelle Assemblée élue le 2 juin renforce le MRP et le général prononce son discours de Bayeux où il affirme la souveraineté populaire et appelle à la cohésion nationale. Le MRP a préféré faire des concessions aux socialistes pour éviter leur regroupement avec les communistes. Et par suite, le nouveau projet constitutionnel est un compromis entre le régime républicain et le régime présidentiel, souhaité, semble-t-il, par le général, c'est-à-dire refus de la prépondérance du législatif. Mais le choix du système électoral, c'est-à-dire la représentation proportionnelle dans le cadre départemental, avec attribution des restes à la plus forte moyenne, visait au renforcement du MRP. Malgré les mises en garde du général, le projet a été adopté par un tiers des Français contre un tiers de non et un tiers d'abstention. C'est ainsi qu'est née la Quatrième République. C'est donc à travers les critiques portées par le général de Gaulle aux institutions de la Troisième République et au projet constitutionnel que l'on doit analyser ses idées politiques. Dans un deuxième point, examinons donc les idées politiques du général de Gaulle en 1946. Il convient de restaurer la République une et démocratique, celle de 1875, celle que le général a incarnée et sauvée en 1940, et pour cela, il faut convier tous les Français à la doter d'institutions capables d'assurer à tous les libertés et l'égalité, et de remettre la France dans le rang des grandes puissances. Rappelons à ce propos que l'ordonnance d'Alger étendit le droit de vote et d'éligibilité aux femmes et rétablit le référendum par où s'exerce également la souveraineté populaire. En cela, le général de Gaulle se situe dans la ligne politique d'André Tardieu, qui reconnaissait le vote féminin comme un acte de simple justice, et voyez dans le référendum un moyen de permettre au peuple d'approuver des idées et pas seulement des hommes. Je vous renvoie à son ouvrage « L'heure de la décision » publié en 1934. C'est donc un renforcement de la démocratie que propose de Gaulle en accordant plus d'initiatives à l'électorat. Deux principes doivent guider les rédacteurs de la nouvelle Constitution, selon lui. La séparation des pouvoirs et l'existence d'un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. Il dénonce, comme le firent Blum et Tardieu, la confusion des pouvoirs responsable de l'instabilité gouvernementale qui fut fatale à la Troisième République, soit que l'exécutif dépendit du législatif ou que ce dernier délégua ses pouvoirs au gouvernement par la pratique des décrets-lois. Il ne veut pas non plus d'une dictature de l'exécutif ou de celle d'un parti tout-puissant, ce qui serait le cas si l'on acceptait la création d'une assemblée unique. Considérant ensuite ce que doit être l'État, garant de l'unité nationale et de l'unité impériale, le général réclame un État qui est une tête. Le président de la République doit être un arbitre, au-dessus des partis, et pour cela, doit avoir des pouvoirs suffisants pour contrôler et résister aux pressions du législatif. Déjà le 4 septembre 1945, à l'occasion du 75e anniversaire de la République, le général avait démontré le déséquilibre des pouvoirs et la faiblesse de l'exécutif, dû moins à l'absence d'hommes de valeur éminente qu'au défaut du régime. Dans son discours de Bayeux, rien ne fut vraiment précisé, hors sa conception de l'indépendance du président, arbitre au-dessus des contingences politiques. À Épinal, le général demande que le chef de l'État ait le choix des ministres et du Premier ministre, responsable devant lui, et que le droit de présider les conseils lui permette d'intervenir pour orienter la politique dans le sens de l'intérêt de la France et non des intérêts particuliers. La restitution du droit de dissolution au président lui paraît devoir garantir la stabilité ministérielle, puisque la crainte d'une consultation populaire doit faire réfléchir l'Assemblée sur l'opportunité d'une motion de censure, ou, en l'absence d'une majorité cohérente, pouvoir procéder à des élections pour renforcer la position du gouvernement. L'existence même de celui-ci ne doit pas être mise en cause par une responsabilité individuelle d'un ministre. La solidarité doit faciliter la tâche du Premier ministre, ordonnateur de la politique de la nation, dans la mesure où l'équipe gouvernementale est issue de la même famille politique. Le général ne condamne pas les partis, expression des tendances multiples de la mentalité populaire. Mais il leur assigne un rôle d'équilibre et non de désunion. Le choix du système électoral laisse entendre que ces préférences vont à une sorte de bipartisme, où le respect de la discipline de vote favoriserait le fonctionnement des institutions, autant que le contrôle du gouvernement par le chef de l'État. Rien de bien net au sujet du mode de désignation du président. Peut-être un large collège électoral, où les députés seraient en minorité, mais où seraient appelés à se prononcer les délégués de l'Union française. En aucun cas, le président ne doit tenir son mandat des partis, ce qui serait si l'exécutif procédait du législatif. En 1946, rien n'indique que le général envisage l'élection du président au suffrage universel. Sinon, un petit membre de phrase où il dit « pouvoir qu'il tiendrait du peuple », ce qui le mettrait définitivement au-dessus des partis et lui conférerait une représentativité nationale égale ou supérieure à celle du président des États-Unis. Leader de la nation, le chef de l'État doit disposer de pouvoirs exceptionnels en cas de guerre et procéder à la consultation du pays par voie de référendum. À lui est réservé le droit de conduire la politique extérieure de la France pour en maintenir l'indépendance et le rang. Lorsqu'il s'agit du pouvoir législatif, le général de Gaulle pense qu'il doit retrouver ses attributions, c'est-à-dire initiative et vote des lois, contrôle de l'action gouvernementale, mais non exercice de ce pouvoir. Par exemple, un premier ministre ne doit pas être investi par le Parlement. La division de ce dernier en deux chambres serait un frein à l'omnipotence d'une chambre unique et un rempart contre le progrès de la gauche marxiste. Donc, une première assemblée, chambre des députés, élue au suffrage universel et représentant les grandes options populaires, et un conseil de la République dont le mode de recrutement en ferait une sorte de Sénat conservateur. Le général rejoint ici le point de vue des radicaux et du MRP. L'élection des sénateurs par les grands électeurs, représentants de la vie locale, peut être envisagée comme un contrepoids à l'influence des partis dans la première chambre. Mais le général songe à élargir le collège électoral de cette deuxième chambre par l'entrée des délégués des organisations socioprofessionnelles et familiales, comme l'avait d'ailleurs suggéré Blum. Donc, intérêts régionaux contre intérêts politiques, puisque le Sénat partagera avec la Chambre l'initiative des lois, particulièrement des lois de finances. On en arrive donc à un équilibre au sein même du législatif, et par le fait du recrutement particulier du Sénat, à une plus exacte représentation de toutes les composantes de la nation, c'est-à-dire un renforcement de la démocratie en France. Républicaine et démocratique, telles doivent être les nouvelles institutions de la France qui répondraient de la sorte à l'esprit de la résistance. Un autre aspect des idées politiques du général de Gaulle est le caractère nouveau des relations qu'il entend établir avec l'Empire. Convaincu qu'il doit rester dans la communauté française, sensible au rôle joué par lui aux côtés de la France libre, il faut définir la nature des liens et rechercher un statut qui lui accorde des satisfactions, tout en le maintenant étroitement uni à la France. Pour le général, la solution fédérale lui paraît donc la meilleure. Cela garantit l'intégrité de l'Empire, assorti d'une certaine autonomie qui, en vérité, semble imiter. Cette fédération de l'Union française, qui aurait pour président le chef de la République française, contribuerait en outre au renforcement de l'autorité exécutive fédérale. Parler au nom de l'Union française serait un atout diplomatique de poids au moment où la France doit s'efforcer de retrouver sa place dans le concert des grandes puissances, où s'affirme de plus en plus la division en deux blocs. En réalité, que reste-t-il des idées exprimées publiquement par le général de Gaulle dans le texte constitutionnel créant cette quatrième république qui, dans son esprit, devait effacer les erreurs de la troisième et donner à la France les moyens du renouveau? C'est ce que nous allons étudier dans un troisième point. Critique de la Constitution de 1946 par le général de Gaulle. Le général avait exprimé les conditions nécessaires à un État fort et démocratique dans son discours d'Épinal et critiqué simultanément le second projet constitutionnel. En désaccord avec ses principes, il notait dans ses projets, premièrement, la suprématie de l'Assemblée nationale. C'est un gouvernement d'Assemblée qui est à la merci des partis, ce qui revient à donner à ceux-ci la direction de la nation. Élu au suffrage universel pour 5 ans, l'Assemblée élit le président de la République, le président du Conseil. Le ministère, responsable devant elle, peut être renversé par un vote de censure. L'Assemblée est permanente, souveraine en matière du règlement et de l'ordre du jour. Elle a la plénitude du pouvoir législatif et l'initiative des lois de finances. Elle participe à la fonction diplomatique, puisque tous les traités doivent être contresignés par elle. Elle exerce en outre des pouvoirs administratifs, par nomination au Conseil administratif, des 6 membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et exerce le pouvoir constituant avec le Conseil de la République. Quant au président du Conseil, proposé par le président, il doit obtenir l'investiture de l'Assemblée. C'est donc un homme investi par les députés qui est responsable de la politique du pays, puisqu'il compose son ministère après son investiture. Ce président n'est pas nécessairement le leader de la majorité, mais le résultat d'un compromis entre les partis. Les ministres peuvent être pris hors de l'Assemblée. Ils ont une responsabilité collective dans le cabinet et personnelle dans chaque ministère. Enfin, l'Assemblée, par la commission d'enquête, peut examiner une affaire ou contrôler un ministre. Or, au moment où le Congrès a voté la Constitution, la situation financière du pays est difficile. L'inflation sévit, le gouvernement doit faire appel à la Banque de France et remettre en ordre les salaires. Voyez la Conférence nationale des prix et salaires en juillet 1946. Le général critique le rôle de l'Assemblée qui fixe seule les dépenses et les recettes de l'État, modifie les impôts et règle les comptes publics. Le Conseil de la République n'a qu'un pouvoir consultatif et ne peut proposer un amendement sur les lois de finances. Si encore ce Conseil représentait les intérêts locaux, mais l'élection très compliquée, au suffrage indirect, laisse la désignation de 50 conseillers sur 315 à l'Assemblée. Le rôle normal du Conseil est donc faussé. Il faut que l'Assemblée vote à la majorité absolue un projet amendé par le Conseil pour qu'il devienne loi. On peut miser sur la division des partis pour restituer, dans la pratique, le rôle normalement dévolu à la deuxième chambre. Et ce n'est pas sans raison que ce Conseil a été qualifié de chambre de réflexion. Considérant le danger que représente pour la France un régime sous la domination des partis et dont la stabilité repose sur la collaboration de ces mêmes partis, le général déplore que le pouvoir fédéral, imaginé pour préserver les rapports avec les territoires d'outre-mer, soit vidé de toute force et de toute capacité. Car le président, qui est aussi celui de l'Union française, n'a qu'une apparence de pouvoir, et le Conseil de la République, qui doit être le Conseil de l'Union française, n'a aucun pouvoir effectif. À plus forte raison, le Conseil des ministres, qui devrait être un Conseil fédéral, avec représentation de l'outre-mer, n'a-t-il aucune possibilité d'intervenir au nom de cet outre-mer? Dans sa déclaration à la presse du 19 septembre 1946, le général a ajouté ce commentaire. « Tout se tient. On ne peut bâtir réellement les institutions de l'Union française que si les institutions correspondantes de la France sont elles-mêmes des réalités. » Interviewé sur l'éventualité de sa candidature à la présidence de la IVe République, le général devait répondre, je cite, « Je ne crois donc pas, en conscience, que ce serait pour moi bien servir le pays que de prétendre devenir le garant d'une constitution qui consacre ce régime et présider dans l'impuissance à l'impuissance de l'État. » Il est certain que le régime de la IVe République a dû lui-même procéder à des réformes. Réforme du recrutement du Conseil de la République, loi sur les apparentements de 1951, qui faisait du Conseil une chambre rurale et tendait à écarter les extrêmes de l'Assemblée. Enfin, réforme du 7 décembre 1954, portant sur les modalités d'investiture du président du Conseil et de ses ministres et des conditions de la dissolution permettant la survie du gouvernement qui l'a décidé. Mais les idées du général de Gaulle, approfondies dans la solitude de Colombey, nourries des expériences malheureuses du régime sans autorité à l'intérieur et débordées par l'éclatement de l'Empire, devaient s'appliquer dans la Constitution de 1958. Dans cette Constitution se retrouvent les trois mots clés « arbitrage »,« continuité », garant. Mais le chef de l'État n'est pas encore l'élu de la nation, seulement des notables. S'il nomme le Premier ministre, c'est ce dernier qui nomme les autres membres de cabinet. Le président de la République préside les conseils des ministres et c'est lui seul qui exerce le droit de dissolution de l'Assemblée. Quant au pouvoir exceptionnel, il ne se limite plus au cas de guerre. L'article 16 élargit considérablement les possibilités de mise en application. D'autre part, le Parlement ne dispose plus du droit d'orienter la politique, c'est le président qui en bénéficie. Le Sénat doit être un auxiliaire de l'exécutif, mais ses pouvoirs accrus vont en faire un adversaire du régime. Enfin, la communauté envisage à terme une autonomie complète du territoire d'outre-mer, une sorte de Commonwealth tel que le Viet Minh l'envisageait en 1946, et qui, faute d'être accepté, aboutit aux guerres coloniales qui favorisèrent le retour du général et la mise en application des idées exposées en 1946.